On commence aujourd'hui de parler de cette période des Actes des Apôtres où celui qui a été envoyé en mission, c'est Paul. En effet, c'est l'envoyé en mission aujourd'hui. C'est Seigneur qui envoie en mission, mais celui qui est envoyé particulièrement est Paul, bien sûr, avec son compagnon qui est Barnabas. On verra aussi pour un certain temps, il y aura aussi un autre jeune qui viendra avec eux, Jean-Marc, mais qui va retourner. Et il n'est pas encore habitué et peut-être n'est pas assez mature pour qu'il puisse vraiment faire ce travail. Mais on le voit aujourd'hui, on part de l'église de Antioche. J'ai une question pour vous. Combien parmi vous avez vu déjà lu cette semaine ce passage des Actes des Apôtres? Oui, cette semaine. Merci, merci Don. Au moins, c'est toi qui nous as sauvés. Je vous demanderai les dimanches prochains pareil. Si vous avez bien lu, il y a des textes assez longs et que si on n'est pas prêt, ça va être difficile à comprendre tous ces contextes. J'ai apporté aussi des cartes. On peut regarder par la suite, après qu'on va finir le culte, voir un petit peu, entrer dans cette dimension géographique qui sont les voyages des Paul. Comprendre qu'est-ce que c'est le commencement de l'évangélisation du monde, de la mission du monde. Parce qu'on a, dans les Écritures, on a, disons, la première rupture. La première ouverture qui se passe quand? Avec la persécution à Jérusalem. Les disciples étaient très bien à Jérusalem, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de raison pour eux de quitter Jérusalem. Mais Seigneur voudra que ce n'est pas seulement Jérusalem et Judée qui soient évangélisés. Alors il va mettre une persécution qui fait que les disciples se sont dispersés. Ils sont partis. Dans le texte que nous avons vu aujourd'hui, il nous dit que d'abord, dans les régions qui sont proches, en Phénicie, dans la région des Tyre et Sidon, sur l'île de Chypre, ou à Antioche, en Syrie, donc cette région-là qui est dans la proximité, ils sont sortis de la Judée et de Jérusalem, où il y a une persécution pour aller ailleurs. Peut-être qu'ils n'auraient pas sorti ou pas très vite. Ils étaient très bien là. De plus, ils étaient juifs. Tout en étant juifs, ils pensaient que Dieu est leur Dieu. Et c'est juste pour les juifs. Ils n'ont vraiment pas pensé que ça pourrait être pour les autres. La deuxième grande ouverture, c'est quand on a parlé, justement, on a parlé de Pierre. La semaine passée, on a parlé de Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'ouverture vers les nations. Et c'est quelque chose qui devient clair par ce qu'on a montré à Pierre. Mais même Pierre a la difficulté, il retourne à Jérusalem, il a du mal à dire, voilà, Seigneur m'a montré quelque chose assez clair, que l'évangile, ça s'ouvre aux autres nations. Mais on a vu qu'il y a des grandes conversions parmi les peuples, les autres nations qui n'étaient pas juifs. Et aujourd'hui, on verra quelque chose qui est différent, qui est vraiment le grand commencement de la mission de ce monde dans lequel nous vivons. C'est l'évangile va prendre le grand large. Avec qui? Avec ce départ de missionnaires de l'église d'Antioche. Le texte est long. Et on a vu dans le texte que nous avons lu tout à l'heure par notre cher frère Raphaël, comme quoi... Il y a une église qui commence à prendre la relève. Jérusalem, c'est l'église par définition, mais ça ne va pas durer longtemps. Dieu prépare d'autres églises importantes qui continueront par la suite ce que se passe maintenant à Jérusalem. Une de ces églises les plus importantes pendant des siècles, c'est l'église d'Antioche. L'église d'Antioche, c'est cette grande ville, la troisième grande ville de l'Empire, pour cette époque-là, c'est une très très grande ville. On parle d'approximativement 500 000 habitants. C'est juste Alexandrie qui est un petit peu plus grande ou pareil. Et une autre ville qui est assez grande, c'est bien sûr Rome qui a 1 million. Mais pour cette période du monde, 1 million, c'est énorme. Vraiment énorme. Même un demi-million, c'est énorme. Parce qu'il n'y avait pas tant de la population qu'il y en a aujourd'hui. Donc pour avoir tout ce peuple-là, c'est vraiment beaucoup de monde. Alors, on a devant nous une église qui va se former à Antioche. Et Antioche deviendra par la suite l'église qui va envoyer des missionnaires. On a vu, c'est une bonne église, n'est-ce pas? C'est une très bonne église, cette église d'Antioche. Et on voit que ce qui se passe dans l'église d'Antioche, c'est des gens qui vont se convertir. Et justement parce qu'on voit qu'il y a des grandes conversions qui se sont faites à Antioche, ceux de Jérusalem, ils ont pensé à faire quoi? À envoyer Barnabas. Barnabas, c'est un juif qui est né sur l'île de Chypre. Je vous ai mis ici une petite carte. Donc, ici, si on voit, c'est Jérusalem, Césarée, Damas, et là, c'est Antioche. Dans cette partie de la Méditerranée, pas loin, peut-être même pas 20 km de la mer. Ça, c'est une grande ville à l'époque. C'est la plus grande ville de l'Asie mineure ou de cette région-là du Moyen-Orient à l'époque. Et de là, ça va être le point de départ, comme on voit ici, de tous les grands voyages de Paul. On voit l'église d'Antioche que nous avons vue tout à l'heure dans la description qui est faite dans les Actes 11. C'est l'église qui va préparer le chemin des grands missionnaires. C'est une église qui nous montre un petit peu que c'est une bonne église, c'est une église qui prie, c'est une église qui pense aux problèmes des autres. Quand il y a un problème à Jérusalem, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont ramasser de l'argent, ils vont envoyer à Jérusalem. C'est une église qui est attentive à ce qui se passe autour. C'est une église qui grandit, bien sûr, parce qu'on voit que elle est, et il y a beaucoup de monde qui acceptent la parole de Dieu. Il y a beaucoup de conversions qui se font à Antioche, qui fait que l'Église est de plus en plus grande. Et on voit aussi quelques caractéristiques de cette Église-là, des caractéristiques que nous avons lues particulièrement au chapitre 13. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaëm, qui était élevé avec Hérode, et Saül. Qui sont ces cinq personnages? Un petit peu les anciens de l'église d'Antioche. On voit ici Barnabas, qui est en grec de Chypre. On voit Siméon, le noir, qui est certainement un Africain. On voit Lucius de Cyrène, qui est quelqu'un qui vient du nord de l'Afrique, de la région où il y a la Libye aujourd'hui. On voit aussi Manahem, qui est quelqu'un qui a grandi avec Hérode, le roi, le tétrarque. Donc c'est quelqu'un qui a grandi avec les Juifs, peut-être qu'il est idumée comme lui. Et on voit aussi Saül, qui était un Juif de Tarse. On dirait c'est un prototype de l'Église aujourd'hui, une Église multiethnique, des gens qui viennent de partout. C'est vraiment le prototype de cette église que nous vivons aujourd'hui à Saint-Léonard. Une église multiethnique, une église en même temps grande, bien organisée, qui a des excellents leaders, que l'église de Jérusalem pense tout de suite à envoyer des bons leaders à l'église d'Antioche, qui se relève la grande église de l'époque. Et puis, on voit aussi que c'est une église qui ne perd pas son temps juste dans des discussions. C'est une église qui prie. C'est une église qui va jeûner. On dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Donc, ils étaient en train de prier, de jeûner. On a parlé tout à l'heure de comment faire la mission. La première chose qui serait levée, c'est prier. Oui, on veut faire la mission. Nous, on pense. Comment faire la mission à Saint-Léonard? Il y a une réponse qu'on a pour nous, c'est ici. l'église de Antioche, avant d'envoyer des missionnaires, ils avaient prié, jeûné, crié à Dieu. Que Dieu fasse le travail, que le Saint-Esprit, on verra par la suite, Paul était rempli par le Saint-Esprit. Et on voit cette église-là qui est en même temps une église qui envoie des missionnaires. Une église qui pense à vraiment comment envoyer des missionnaires. C'est elle qui va envoyer les premiers missionnaires du monde romain de l'époque, qui seront bien sûr, mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celle-ci et ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Voilà le premier voyage missionnaire de Paul. Je vous avais dit, ça fait une vingtaine de kilomètres d'Antioche jusqu'à la mer. Donc, ils ont dû aller, bien sûr, vers le premier port, qui est la Séleucie. Ils ont monté sur un bateau. Ils vont descendre sur l'île de Chypre. Ils vont aller, donc, ici, jusqu'à Salamine. Ils vont s'arrêter à Salamine. C'est le commencement de la mission. Une œuvre exceptionnelle pour laquelle le Seigneur a appelé Paul pour la faire. On a parlé, ça fait quelques dimanches, dans le chapitre 9 particulièrement, de cet appel que Dieu a fait à Paul. Il va apprendre tout ce qu'il a à souffrir pour moi. Il a fait souffrir les chrétiens. Il était quelqu'un qui s'est donné à fond pour la religion de ses parents. C'est quelqu'un qui n'a pas arrêté avec demi-mesure. Mais il va faire de même pour le Seigneur. Ce n'est pas l'homme qui a demi-mesure, qui se lance à fond dans cette mission, qui est un travail absolument incroyable, difficile, avec énormément de difficultés. Il va souffrir énormément. Et pendant ce premier voyage, on verra qu'il va vraiment donner son sang, presque sa vie, juste parce qu'il va annoncer la parole de Dieu. Mais avant d'entrer dans vraiment l'action, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui aurait aimé écouter Paul à ma place? Bien sûr, avoir Paul ici, à écouter un message de Paul. Paul qui prêche. Est-ce que vous aurez aimé, n'est-ce pas, de lire du moins, ou de voir sur des vidéos ce que Paul a prêché? Certainement. On aurait tous aimé de voir Paul qui prêchait. Mais aujourd'hui, on a l'occasion. À l'époque, on n'a pas de vidéo, on n'a pas de microphone, on ne sait pas enregistrer. Mais ils savaient quand même écrire. Et on a aujourd'hui, dans l'écriture, la première prédication de l'apôtre Paul qui nous est racontée. Et c'est fascinant. C'est vraiment fascinant de la lire et de réfléchir à cette première prédication de l'apôtre Paul. Permettez-moi de commencer la lecture de cette prédication de l'apôtre Paul. Ça commence dans le chapitre 13. Oh, désolé. Et on va lire à partir du verset 14. Ou même de 13, Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos et rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et se retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route, arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue, le jour de sabbat, ils assirent Après la lecture de la loi et les prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, Homme frère, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. Paul se leva et, ayant fait signe de la main, il dit, Maintenant on commence le message de Paul. Homme israélite, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il en fit sortir par le bras puissant. Il leur nourrit près de 40 ans dans les déserts. Et ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, Saül, fils de Kish, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils de Ishaï, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et alors Jean acheva sa course en disant, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui de pied duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme, frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui s'élisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils les descendirent de la croix et les déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle de la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans les psaumes 2. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il déclare en disant, « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il est dit encore, « Ailleurs, tu ne permettais pas que ton saint voie la corruption. » Or David, après avoir en cent ans servi au dessein de Dieu, et mort, il a été réuni à ses pères, il a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempteurs, soyez étonnés, disparaissez. Car je veux faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent, on le pria de parler le sabbat suivant, sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de justes et des prosélytes pieux survirent Paul et Barnabas, qui s'entretirent avec eux, ils les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. C'est un long message. C'est un bon nombre de versets qui nous racontent comment Paul prêchait. C'était un homme très éduqué, Paul. C'est quelqu'un qui a fait des excellentes études. Il a grandi au pied de Gamaliel, qui jusqu'à aujourd'hui est considéré peut-être le plus grand théologien du judaïsme. C'est Gamaliel, c'est un personnage très ouvert vers les autres, vers la culture, vers les autres choses. Cela fait que ceux qui sont assez proches de lui connaissent aussi bien la culture grecque. Paul, c'est quelqu'un qui a baigné dans le judaïsme, mais aussi dans la culture grecque. Certainement, il vient d'une ville qui est un grand centre universitaire de l'époque. Donc, il a baigné dans la culture, s'est éduqué. Et la science principale de ce monde-là, c'est la rhétorique. La rhétorique, c'est savoir tenir un discours, savoir organiser son discours, mettre en place des arguments, avoir du style, savoir persuader le peuple. Et tout ça, c'est vraiment important parce que on verra en essayant de analyser le message de Paul, combien c'est quelqu'un qui connaît très bien l'art de la rhétorique. Donc, avant qu'il arrive dans cette ville de Pisidie, qui n'est pas une très grande ville, même à l'époque, ce n'est pas l'Antioche de Pisidie, c'est pas l'Antioche de Syrie, c'est l'Antioche de Pisidie, une ville quelconque qui porte le même nom, mais où il y a quand même une bonne quantité de Juifs. Partout où il va, de même à Chypre, où il probablement passait 2 semaines, peut-être 2 mois, on ne raconte pas tout. On nous raconte juste le fait qu'il arrive dans la ville de Paphos. On va traverser toute l'île, de l'est à l'ouest. Il va arriver dans cette ville où s'est trouvé le gouverneur de l'île de Chypre. C'est un Romain. Et la chose qui est vraiment intéressante, n'est-ce pas? C'est qu'à partir de cette rencontre avec le gouverneur, qui était un Romain, que, on n'appelle plus Paul avec son nom juif. Jusqu'à là, on appelle toujours Paul avec le nom de Saul ou Saül. À partir de ce moment-là, oui, il est dans la ville de Paphos, où il va rencontrer Sergius Paulus ou Sergius Paulos, ou je ne sais pas comment on l'a dit, parce qu'on ne sait pas exactement comment prononcer. Les Grecs disent que c'est Pavlos, d'où ça vient toutes ces appellations de Pavel dans le monde slave. Mais en même temps, c'est à partir de cette rencontre avec ce gouverneur qu'il va se convertir. C'est un homme qui probablement est dans la recherche. Ce qui fait qu'il a autour de lui un magicien. Peut-être que pour lui, ce n'était pas un magicien. On est dans le monde des pleins d'idoles. C'est un personnage intéressant. À l'époque, ce juif. Encore, c'est bizarre que ce magicien qui est autour de gouverneur, c'est un juif. C'est un juif, un faux prophète. Il nous dit aussi la parole de Dieu. C'est un faux prophète, un magicien. C'est quelqu'un qui est là, qui probablement il est en train de charmer et de faire bien sûr de l'argent. C'est une manière de vivre. Quand l'apôtre Paul est en contact avec le gouverneur, celui qui est alarmé tout de suite, c'est le magicien. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien qu'il peut perdre sa job. Il gagne bien tout en l'étant. Mais si le gouverneur va se convertir, ses charmes vont disparaître. Il ne sera d'aucune utilité. Donc, pour lui, il est vite alarmé au fait que le gouverneur, il est intéressé. Probablement, il a entendu ce qui se passe dans la ville. Il demande que ce monsieur-là qui est arrivé, qu'il vienne écouter lui aussi. Il est intéressé de connaître les vérités, le gouverneur. Pas seulement qu'il est intéressé, mais on va au moment où Paul, il est dérangé par ce magicien qui l'attaque de tous côtés. Il va l'arrêter, il va lui faire un petit peu ce que lui avait aussi subi, n'est-ce pas? Être aveugle pour un certain temps. Est-ce que c'était pas la même chose avec Paul? Oui, il est resté aveugle un petit peu. Peut-être aussi une manière de dire, si tu ne connais pas Dieu, tu es un petit peu aveugle et tu as besoin que les choses changent. C'est juste un passage vers ce qui deviendra la grande mission qui va se faire dans ce qu'on appelle Asie mineure. Toute cette région-là, qui est la Turquie d'aujourd'hui, l'Anatolie, est appelée aussi l'Asie mineure. Et il va entrer en plein milieu de ces Asie mineure, par une région qu'aujourd'hui, c'est la région la plus touristique de la Turquie. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'Europe, ils vont beaucoup dans cette région de Attalie. Cette région-là, où c'est vraiment très touristique. C'est un petit peu comme une sorte de Cuba. Pour ceux qui sont en Amérique, c'est cette région de la Turquie. Pour ceux qui vont de la Turquie dans cette région-là, où il y a plein de stations balnéaires, on sort à la mer. Donc c'est dans cette région-là qu'il arrive pour la première fois, et de là ça va entrer directement en plein milieu de l'Asie mineure. Il va traverser une chaîne montagneuse très périlleuse, de Perge jusqu'à Antioche de Pisidie. C'est des montagnes, il y avait des brigands. C'est un long voyage, à peu près 200 km probablement à pied, et qui est très périlleux. Mais il arrive dans cette ville où il y a, comme dans toutes les autres villes, une synagogue qu'il va chercher avant tout. Pourquoi il cherche une synagogue? Il cherche une place où s'adresser. Il cherche aussi, pour l'apôtre Paul, il dit quoi pour son peuple? Il était capable de donner sa vie juste pour sauver son peuple. Il aime énormément ce peuple. Il veut aller avant tout dans la synagogue où se trouve son peuple, à lui. Il vient d'une ville qui n'est pas très loin. Regardez, Antioche est là, Tarse est ici. Il est né dans les mêmes conditions, ses parents vivent dans les mêmes conditions. Dans cette région d'Asie mineure, de la Turquie d'aujourd'hui, où il y a des fortes communautés juives qui sont dispersées dans toute cette ville. Et lui grandit un petit peu dans le même contexte. C'est aussi intéressant, Seigneur, on voit deux personnes en mission. Tous les deux sont nés dans les régions où ils iront. Barnabas, il est né où? Chypre. C'est pour ça qu'il peut être que c'est une des raisons pour lesquelles le premier voyage, ils se sont arrêtés sur l'île de Chypre. Barnabas aimait, peut-être qu'il connaissait, il est né là-bas, peut-être qu'il a vécu là-bas, il connaissait les gens. Pour l'apôtre Paul aussi, c'est dans cette région d'Anatolie. Il vient de là-bas. Il connaît ses habitudes, le style de vie. C'est des gens qui n'ont pas besoin de le éduquer pendant des longs temps pour les envoyer là-bas. On n'a pas eu le temps de tout voir. C'est pour ça que je vous demande si vous avez lu. Une des choses qu'on a vu aussi dans le texte que nous avons, que Raphaël a lu tout à l'heure, c'est que Barnabas est allé chercher Saul à Tarse. Il s'est trouvé où? À Tarse. Et Barnabas est allé chercher Saul à Tarse pour la ramener à Antioche. Donc on voit, c'est des gens qui connaissent, qui sont là, dans cette région. On les a envoyés dans leur région à eux de la missionner. Et on arrive enfin à notre prédication, à la prédication de Paul qui fait dans cette synagogue de Antioche de Pisidie. Et j'aimerais aussi voir comment cette chose s'est faite. La première chose qu'on regarde, il va toucher un corps sensible. Il est dans la synagogue, il le parle de leur histoire. Mais pas en disant « Regardez ce que le peuple d'Israël a fait », mais avec un accent qui est mis sur Dieu. Regardez ce que Dieu a fait. N'est-ce pas? Regardez avec moi verset 17. Écoutez, il dit, fini comme ça le verset 16. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. C'est qui? Qui est le personnage principal? Le Dieu. Continuez. C'est Dieu-là. Il mit ce peuple en honneur. Pendant son séjour au pays d'Égypte. Et Dieu l'en fit sortir par un bras puissant. Il le nourrit. Qui les nourrit? Dieu. Dans des conditions invraisemblables dans le désert. Il leur accorda un territoire comme propriété. Qui? Dieu. Pendant 450 ans, il leur donna des juges. C'est qui? C'est Dieu qui les a donnés. Par la suite, le peuple va demander un roi. Dieu leur donna. Il n'évite pas de dire Saul. Il porte son nom. C'est un de ses descendants. C'est quelqu'un qui vient des tribus de Benjamin, lui-même, Saul de Tarse. C'est pour ça qu'il porte le nom de celui qui est le grand, plus grand personnage de son tribu à lui, de Benjamin, n'est-ce pas? Ah, le roi, le premier roi, Saul de Tarse, le fils de Kish, de tribu de Benjamin. C'est son tribu à lui. Puis, Dieu l'a rejeté. Et il leur suscita pour roi David. C'est Dieu qui a suscité David. Ce n'est pas le peuple dans ces cas-là. Auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Ishaï, homme selon mon cœur. Il va accomplir toutes mes volontés. Et puis il arrive au point principal de son message. C'est de la postérité de David que Dieu, selon ses promesses, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Donc, tout l'accent qui est mis, c'est que Dieu vous a choisi. Dieu a fait des choses. Dieu vous a amené dans un pays, vous a donné des propriétés. Il y avait sept nations que Dieu a enlevées pour, juste pour vous donner ce territoire-là. C'est Dieu qui a fait, c'est Dieu d'Israël qui a fait tant de choses pour vous. Donc l'accent tombe sur un Dieu qui vous aime, un Dieu qui a un plan de salut pour vous. C'est la première partie du message de Paul. Il continue par la suite avec la deuxième partie, qui l'accent tombe sur celui qui est ressuscité. Ayant sa venue de ce Jésus qui est le Sauveur que Dieu a prévu pour vous. Il y avait aussi Jean. Certainement, il connaissait Jean. Jusqu'à aujourd'hui, même les Juifs qui n'aiment pas Jésus, ils ont raconté leurs histoires. Et on a les histoires qui nous sont racontées sur Jean. Donc Jean était là. Jean, il connaissait Jean. Donc Jean, il dit, avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi viendra celui de pied duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. » Comment ça? Jean n'est pas digne. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était semblable à Jean? Est-ce qu'il y avait quelqu'un sur la terre qui était semblable à Jean? 100% donné pour Dieu. Et lui, si lui dit qu'il n'est pas digne de délier les souliers de celui qui était après lui, ça veut dire qu'il est vraiment un personnage immense, celui qui viendra. Homme, frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus en le condamnant étant accomplies les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Qu'est-ce qu'ils avaient fait, les habitants de Jérusalem? Ils avaient accompli les promesses, malheureusement. C'est qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Mais au contraire, c'est des textes que vous devrez connaître, que vous lisez chaque sabbat, il dit. Ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Et vous le lisez, vous, les habitants d'Antioche de Pisidie. Pendant que vous êtes à la synagogue, vous devrez connaître ce texte. Quoiqu'ils le trouvassent, ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort. Ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Une antithèse. Un Dieu plein de bonté qui pense à vous, qui vous garde, qui vous donne des propriétés, qui vous donne un sauveur, qui l'envoie. Et de l'autre côté, l'homme qui font quoi? Demander des rois n'importe quoi. Qui n'écoutent personne, qui vont faire accomplir les choses et qui vont faire périr ce que Dieu a envoyé. Donc on voit cette antithèse, un Dieu bon et un homme mauvais qui va le mettre face à face. Parce qu'il dit, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. Il va se mettre, eux aussi, dans ce message de salut. Qu'est-ce qui est leur rôle d'annoncer cette bonne nouvelle? Les choses ne sont faites pas par eux, par Dieu même. C'est Dieu qui a ressuscité Jésus. C'est Dieu qui vous a envoyé un sauveur. Tout l'accent du message de Paul tombe sur un bon Dieu qui pense à vous, qui vous avez besoin d'un salut, que vous ne le trouvez pas. Parce que c'est comme ça qu'il va continuer. Et vous allez voir, effectivement, l'accent qui est vraiment mis sur le fait que nous ne trouvons pas. Que la loi de Moïse n'a pas vraiment la réponse. Que la loi de Moïse ne donne pas la réponse pour sauver nos âmes. Et que dans la loi de Moïse, tout ce que nous avons, c'est l'accent mis sur celui qui est Christ. Celui qui viendra nous sauver. Et que le salut n'est pas dans la loi. Le salut, c'est dans celui qui a été envoyé. Et dans cette bonne nouvelle qu'il annonce, par la suite viendra essayer, il réussit aussi, de s'appuyer sur le texte de la Bible. Bah, ces gens-là, au début du siècle, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Il n'a même pas été écrit encore. De quelles paroles des dieux voulez-vous qu'ils connaissent? Quelles paroles voulez-vous qu'ils lisent? La loi et les prophètes. Ce que le peuple lisait. Donc on voit qu'il s'adresse comme à des gens qui connaissent très bien la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il s'adresse aux Juifs de cette manière-là. Parce qu'il vient avec des textes de psaumes, vient de textes de prophètes, comme Habakkuk, les autres, d'Ésaïe. Et il dit, Dieu l'a accompli pour nous leurs enfants en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans les psaumes deuxième. Tu es mon fils. J'étais engendré aujourd'hui. C'est le verset 7 du psaume 2. Qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai des grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurés. Il prend Ésaïe, il prend les psaumes, il prend d'autres textes de l'Ancien Testament en les disant, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption ou la décomposition. Il vient toucher tout simplement leur intelligence en les disant, mais est-ce qu'on parle de David? Est-ce qu'il n'a pas connu la corruption, la décomposition, il n'est pas mort, Mais oui, il est mort. Il a connu la décomposition. Alors de qui il parle? Si on parle de cette descendance de David, sinon de Jésus-Christ, que le Seigneur ne l'a pas laissé dans ses sépulcres que 3 jours, sans qu'il connaisse la décomposition. Et Seigneur l'a ressuscité des morts. Donc, il touche leur intelligence. C'est dans tout ça qu'on voit justement cette connaissance exceptionnelle de savoir d'un discours, de la rhétorique que les gens de l'Antiquité chérissaient énormément. C'est la science par définition qu'on étudiait, la rhétorique, savoir tenir un discours, savoir soutenir ses arguments. C'est justement ça. Ils cherchent et ils trouvent des arguments et des procédés pour convaincre. Ils connaissent l'art d'exposer des arguments de manière ordonnée et efficace. Et ils trouvent des mots, justement, pour mettre en valeur ces arguments. C'est de cette manière qu'on voit qu'il va toucher la corde sensible en mettant devant le peuple juif, leur Dieu, leurs histoires, pour le disant, regardez dans ce que vous étudiez chaque sabbat ici, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et la parole de Dieu vous met devant celui qui a été mis à mort et ressuscité. Mais l'affaire ne se finit pas. On n'a pas énormément de temps de parler de ça, mais la chose qui compte, c'est qu'il ne s'arrête pas ici. La chose qui compte, c'est que Paul ne rate pas sa cible. Il viendra justement, va le mettre dans les choses accomplies, en les disant, quiconque croit est justifié par lui, par Jésus-Christ, de toutes les choses dont vous ne pouvez pas être justifié par la loi de Moïse. C'est que la loi de Moïse ne justifie pas, ne sauve pas. Et il dit, vous pouvez vous chercher cela dans la loi de Moïse, mais ça n'existe pas. Et celui qui peut vous sauver, celui qui peut pardonner vos péchés, c'est Jésus-Christ. Ainsi, prenez garde, les dit aussi, qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Encore, il revient au prophète. Voyez, contempteur, soyez étonné et disparaissez, car je veux faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. C'est comme dans Deutéronome 31, n'est-ce pas? Choisissez entre la vie et la mort, entre le bien et le mal. Il le met devant ça. Choisissez la vie. Soyez attentifs à ce que on vous annonce. C'est l'occasion pour vous de connaître la vérité. Vous cherchez cette vérité-là. Mais si vous n'acceptez pas aujourd'hui le message qu'on vient de vous annoncer, soyez attentifs. Vous pouvez être celui que le prophète dise. Celui qui, malheureusement, pour eux, ça va être la perdition éternelle. Il va le mettre devant le message de l'Évangile. Aujourd'hui, le message de l'Évangile vous est adressé à vous. Ne faites pas comme vos frères à Jérusalem. Vous avez aujourd'hui la possibilité d'accepter Christ comme Dieu dans vos vies. Acceptez-le. Disons que ce message de Paul ne s'adresse, nous est pas été raconté dans la Bible juste pour savoir comment Paul connaissait la rhétorique, comment il était capable de sortir les arguments pour faire les gens d'Antioche de Pisidie à croire dans ses paroles. Le message nous a été transcrit, écrit, c'est parce que les hommes du XXIe siècle puissent avoir devant eux exactement ce que Paul voudrait, des arguments nécessaires pour nous convaincre et pour accepter que c'est Christ C'est lui qui est venu pour nous sauver. Le message des pauvres, c'est pour nous, les hommes, qu'on se trouve ici dans cette salle. Il veut que nous aussi acceptions Christ comme Seigneur. Il veut qu'on sache, nous aussi, quand on sort dehors, comment prêcher, comment avoir des arguments solides. Pas être juste coup-ci, coup-ça et savoir par quoi répondre ou quoi dire aux gens qu'on va rencontrer. Il veut pour nous que ça soit des paroles vivantes, paroles qui changent des vies. Il veut que nos cœurs de pierre soient transformés en cœurs de chair, qu'on soit sensible aux vérités de Dieu. C'est à ça que nous sommes appelés aujourd'hui, de accepter Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Ça nous fait grand plaisir de voir comment Paul prêchait. Il n'aurait pas difficile de nous raconter tant. Combien de choses il a fait, peut-être que c'est passé des mois ou des années pendant tous ces voyages-là. Il n'y en a pas tant de messages que nous avons. Mais le message qui a été donné dans l'Antioche de Pisidie nous est très bien raconté. Et il est là pour nous aider à comprendre la vérité. Il est là pour nous sortir les arguments essentiels de voir comment Dieu a travaillé. Quel est le plan de salut de Dieu? Ce plan de salut de Dieu est ouvert à moi. Il est ouvert à toi. Et aujourd'hui, il vient de nous dire, ne rate pas l'occasion. N'importe qui tu es, ne rate pas l'occasion de ne pas le suivre. Il n'y en a pas d'autre personne pour nous sauver. Tous les autres, c'est des faux prophètes comme ce bar Jésus. Il a encore le nom de fils de sauveur. Combien c'est faux. Combien c'est à côté cet homme de Chypre. Parce qu'il était là juste pour détourner les gens du bon chemin, comme il voulait détourner Sergio Paulus. Que Dieu nous aide aujourd'hui d'accepter, de nous laisser transformer par celui qui est venu, qui était mort, mais Dieu l'a ressuscité. Et dans cette résurrection se trouve tout notre salut. Et la seule espérance pour l'humanité, parce que sans résurrection, la mort, c'est terrible. Mais la résurrection, ça nous donne le sourire sur le visage, ça nous change des vies, parce qu'on sait que demain, c'est à nous parce qu'on était en Christ, parce qu'on n'est pas seul dans les mains du méchant, mais parce qu'on est dans les mains de celui qui a donné sa vie pour nous. Et ça, c'est le message magnifique que Paul nous transmet aujourd'hui à chacun d'entre nous. Amen.